Rosenroth, le dernier album de Rammstein. On est avec Paul Landers pour en parler, le guitariste. Alors j'aimerais savoir déjà, dès le départ, un petit peu quelles sont les références littéraires, s'il y en a, par rapport à ce Rosenroth.
Rosenroth ist für mich eigentlich ein Begriff aus der Märchenwelt. Und jeder hat da aber eine andere Assoziation. Aber man sollte wissen, dass Rosenroth mehr ist als Rosen und Rot.
Pour moi, en fait, c'est un terme qui vient un peu de l'univers des contes de fées, mais chacun est libre d'y trouver ses propres associations. C'est un terme assez vague, mais il faut savoir que c'est un peu plus que juste la rose et le rouge.
J'aimerais savoir pourquoi l'album sort juste à une année après Rise Rise. Ça veut dire qu'il y avait du matériel. La plupart de ces morceaux sont, en fait, quelque part, des morceaux qui n'ont pas été utilisés sur l'album précédent.
Oui. Es waren noch im Zuge der Reise-Reise-Recordings merkten wir, dass wir viel zu viele gute Lieder haben, die nicht auf eine CD passten und haben dann beschlossen, zwei Alben draus zu machen. Und nun kommt praktisch der zweite Teil von Reise-Reise.
C'est vrai que quand on avait enregistré Rise Rise, on s'est aperçu qu'il y avait vraiment énormément de bonnes chansons et qu'il y en avait trop pour un seul album. C'est pour ça que c'est la suite de cet album-là et c'est pour ça qu'il y a si peu de temps qui soit passé.
Le son est de nouveau énorme sur ce disque. On peut rappeler avec qui vous travaillez et si vous faites toujours confiance aux mêmes personnes, c'est évidemment parce qu'ils font du bon travail. Mais encore, il y a des liens d'amitié, je pense notamment avec Jacob Elner.
Gerade bei Reise Reise war im Gespräch einen anderen Produzenten zu nehmen, aber je näher die Produktion dann rückte, hatten wir dann doch ein bisschen Schiss, weil wir bei Jakob Hellner wissen wir, woran wir sind und wir wissen, dass der wie seine Arbeit ist und es war uns wichtig, für dieses Album auch wieder einen sicheren Posten zu haben und da gibt es ja auch diesen Ausspruch, man soll kein Team wechseln, wenn man gerade gewinnt.
C'est vrai qu'on travaille depuis un bon moment avec lui et on sait exactement qu'on peut compter sur lui. C'est vrai que cette fois-ci, on s'était éventuellement demandé s'il ne fallait pas éventuellement changer de producteur. Mais avec lui, on sait exactement où on va. Donc du coup, on a joué la sécurité et on dit également qu'on ne va pas changer une équipe qui gagne. Et voilà ce qui nous a motivés.
Wie in Fußball. Oui. Il est fan de football. Est-ce que Rammstein est prévu peut-être pour faire quelque chose pour la Coupe du Monde de foot l'année prochaine en Allemagne?
Also die Leute, die in Deutschland was zu sagen haben, also praktisch die Leute mit Schlipsen, die mögen uns nicht so. Wir sind mehr bei den anderen beliebt. Und obwohl wir jetzt schon nach außen hin deutsch sind, sind wir doch nicht so typisch für Deutschland. Zum Beispiel sind wir nicht die großen Biertrinker und Fußballfans auch nicht.
Bon, il faut quand même savoir que les gens qui ont quelque chose à dire en Allemagne, à savoir les porteurs de cravates, ce ne sont pas forcément nos plus grands fans. En fait, nos fans, c'est plutôt les autres. Et il faut savoir également qu'on est peut-être très allemand pour les autres, très allemand à l'étranger, mais en Allemagne, on n'est pas forcément très, très typique. Donc, on n'est pas vraiment des buveurs de bière, ni forcément des grands fans de football.
Hallo, hier ist Paul von Rammstein. Ich spiele die Gitarre links und sage Hallo zu Couleur 3.
J'aimerais parler un peu des morceaux maintenant, notamment un morceau extrêmement dramatique qui s'appelle Spring. On peut raconter un petit peu l'histoire, parce que bon, moi je connais un peu l'allemand, mais pour les gens qui ne sauraient peut-être pas forcément comprendre toutes les paroles, juste l'histoire de Spring, que je trouve assez dramatique.
Erkläre ungerne Texte, weil ich könnte nur das wiedergeben, was ich persönlich darüber denke, weil wir auch innerhalb der Band immer ganz unterschiedliche Meinungen haben. Meine Erfahrung aber in der letzten Zeit war immer eigentlich die, dass die Leute eine viel buntere Fantasie hatten, was die Texte betrifft, als wenn ich ihnen das, als wenn ich ihnen meine kleine Sicht erklären würde. Deswegen würde ich doch gerne, dass jeder sich seinen Teil denkt und jeder hat recht, der sich irgendwas denkt.
En fait, j'aime absolument pas expliquer les textes parce que déjà, à l'intérieur du groupe, on est très différents. Donc, si moi, j'expliquais quelque chose, je ne pourrais parler que pour moi. Ça ne reflèterait pas forcément la position du groupe. Et je trouve aussi que les gens interprètent très librement eux-mêmes nos propres textes et qu'il en sort des associations, des interprétations très diverses et variées. Les gens ont beaucoup de fantaisie et je préfère effectivement qu'il en soit ainsi.
Il y a quand même une adéquation quand ils travaillent la musique et les textes. Par rapport à la musique et ce que veut dire le chanteur, ça, c'est pas non plus uniquement d'abord la musique ou que les textes. Il y a une adéquation quand même, non?
Oui, non, mais tout à fait.
Pourquoi est-ce qu'il veut pas parler des textes et qu'il pourrait parler de la musique alors? Qu'est-ce qu'il y a de dramatique dans la musique de Spring?
Elle soll mich konkret was fragen.
Non, ou alors poser la question concrètement.
Non, mais pour moi c'était concret, mais je vais passer à une autre question, alors ça va être plus facile.
Erklärung zerstören oft so gute Bilder, die man hat. Ich hatte von Manson zum Beispiel immer ein sehr, Marilyn Manson, immer sehr hohes, fand ich immer sehr angenehm. Aber als er dann anfing, das immer alles zu erklären und als in Interviews immer die ganzen Hintergründe und so, war schon 50% vom Zauber weg. Und es ist ein bisschen so, was er jetzt von mir will, ist im Prinzip, dass ich einen Zaubertrick verrate. Zauberer, du hast die Frau zersägt, wie machst du das denn eigentlich? Und das sage ich, nö, du sollst denken, wir zersägen die Frau und du sollst ja nicht wissen, dass das nicht bestimmt.
Moi, je trouve que les explications, ou trop d'explications, ça casse quand même une certaine magie. Moi, ça m'a fait ça avec Marilyn Manson. Du moment où il avait commencé à se lancer dans des explications, à dire ce que ça recouvrait pour lui, pour moi, il y avait déjà 50% de la magie qui était partie en fumée. Et j'ai l'impression qu'en me posant cette question, vous avez envie que je dévoile comme des espèces de tours de passe-passe. Genre, on est des magiciens et on va scier une femme sur scène. Et vous allez me demander comment on y arrive. Mais en fait, j'ai même pas envie de le dire. Pour le public, on a passé un coup de scie. Et c'est, comme on y est arrivé, c'est notre secret.
Mais après, ça permet...
Chacun peut interpréter à sa guise.
Après, ça permet à d'autres gens d'interpréter certains autres textes, quitte à ce que ça soit dénaturé, les chansons. Et on sait qu'avec Rammstein, il y a beaucoup de gens qui dénaturent les textes, tout ce que veut peut-être dire le groupe. Donc ça peut être un piège aussi pour le groupe, parfois.
Das ist, wir freuen uns über jede Interpretation unserer Texte, egal in welcher Richtung die gehen. Weil unsere Texte sind meistens so angelegt, dass sie mindestens zweischichtig sind und durch ein Video versuchen wir manchmal noch eine dritte Schicht drüber zu legen, dass man praktisch verschiedenste Möglichkeiten der Interpretation hat. Das ist uns ganz wichtig. Und ihr könnt ihm jetzt zu jedem Text irgendwie sagen, was ich dabei denke, aber das ist nicht so interessant, wie als wenn man sich selber was dazu denkt. Er könnte mir mal sagen, was er bei Springen denkt.
Mais nous, c'est exactement ce qu'on veut. Et à la limite, peu importe la direction que ça prend. Et c'est vrai que très souvent, dans nos chansons, il y a déjà deux niveaux, comme deux couches différentes que ça peut représenter. Souvent, on ajoute une couche supplémentaire avec la vidéo. Et c'est vrai que chaque texte permet cette interprétation. Et nous, on veut que les gens y trouvent la leur. Et à la limite, c'est plus à vous de me dire ce que vous ressentez avec Spring. Mais si moi je me lançais, ce sera bien sûr que je pourrais le faire. J'ai forcément une idée en tête. Mais ce sera mon idée et un autre membre du groupe en aurait une toute autre.
J'aimerais savoir d'où viennent les trompettes de mariachi qu'on entend en fait dans Te Quiero Puta. D'où est venue l'idée en fait c'est peut-être parce qu'ils aiment un côté western, Ennio Morricone, ou d'où ça vient?
Also das Lied gab es am Anfang ohne diese Trompeten und war auch noch nicht in Spanisch gedacht. Früher hatten wir einen Text, der ging so über Spiritualität. Und der Refrain hat uns nicht so gefreut. Der war irgendwie so, om, wie er leuchtet, om. Und es war nicht so cool. Und dann lag das Lied erstmal zur Seite. Es lag praktisch auf dem Parkplatz. Und Till ist dann irgendwie, er hat dann gedacht, ach, da machen wir was Spanisches dazu. Und erst daraufhin wurde diese Melodie, die vom Keyboard gespielt wird, mit diesen Trompeten gespielt, weil wir dachten, wenn es jetzt schon ein spanisches Lied ist, dann können wir auch richtig übertreiben. Und dann plötzlich haben wir gemerkt, so ist es gut.
C'est vrai qu'au début, il n'y avait pas forcément les trompettes, il n'y avait même pas la chanson en espagnol. En fait, on avait une chanson en allemand avec le refrain qui vient de chanter. C'était quelque chose d'assez spirituel et c'est vrai que ça faisait pas très cool. Et du coup, Till, à un moment donné, avait lancé l'idée de l'espagnol parce que nous, on avait complètement mis de côté la chanson et puis on avait arrêté de travailler dessus. Du coup, il a lancé l'idée de l'espagnol. Après, on a joué cette mélodie sur le clavier, on a associé les trompettes et du coup on s'est dit qu'on pouvait y aller franchement, quitte à forcer un peu le trait.
Allô, hier.
hier ist Paul von Rammstein. Ich spiele die Gitarre links und sage Hallo zu Couleur 3.
Paul, tu évoquais tout à l'heure Marilyn Manson. En Suisse, cet été, il y a une ligue évangélique qui a essayé d'interdire le concert de Slipknot, qui a essayé d'interdire le concert de Rammstein, qui a essayé d'interdire le concert de Marilyn Manson. Est-ce qu'il y a des points communs? Pourquoi est-ce qu'une ligue évangélique s'attaque à ces trois groupes? Est-ce qu'ils pensent qu'il y a des points communs entre ces groupes?
Es gibt immer Musik, die so ein bisschen provoziert und Musik, die die Eltern, wenn sie die aus dem Kinderzimmer ihrer Kinder hören, nicht so gut finden. Bis jetzt haben wir es eigentlich immer geschafft, da auch noch mit bei zu sein. Und das ist uns auch wichtig, dass es welche gibt, die unsere Musik nicht mögen. Und Rockmusik sollte schon ein bisschen provozieren und polarisieren, wenn sie gut ist. Ich glaube, wenn wir irgendwann mal keine Proteste mehr haben, dann sind wir, glaube ich, alt geworden.
C'est vrai que cette musique a effectivement un certain côté provocateur et il y a effectivement des groupes où les parents ne sont pas forcément très très ravis d'entendre ça dans la chambre de leurs enfants et jusqu'ici on avait toujours réussi à faire partie de ces groupes-là et quelque part c'est normal aussi pour un groupe rock de polariser un tout petit peu avec sa musique. Le jour où on n'aura plus du tout de protestation contre notre musique, je pense qu'on aura vraiment vieilli.
Paul, comment est-ce que tu expliques l'intérêt que suscite Rammstein mondialement tout en gardant une identité quand même germanophone?
Richtig klar ist uns es eigentlich nicht, wenn ich ehrlich bin.
Bon, pour être tout à fait honnête, on n'a toujours pas très bien compris pourquoi c'est comme ça.
Ich finde uns schon gut und die Musik auch, aber ich weiß nicht, ob wir jetzt so gut sind.
Parce que je me trouve bon, je trouve que la musique est bonne, mais je ne sais pas si on est si bon que ça.
À une époque, on parlait beaucoup, je me souviens quand Herz Alive est sorti en 1997, il y avait une petite histoire qui racontait que c'était David Lynch qui avait un peu introduit Rammstein aux États-Unis. Après, ils sont allés jouer là-bas. On dit que les Américains sont des grands enfants. Alors, je voudrais savoir comment est-ce que Rammstein est arrivé aux États-Unis, par quelle porte? Est-ce que cette histoire est vraie?
Also in Amerika geht es ganz schnell hoch und auch ganz schnell wieder runter. Also das hat, wir hatten das große Glück mit einem Video, du hast, mit diesem Lied, du hast irgendeinen Nerv zu treffen und waren für eine gewisse Zeit da richtig angesagt. Das hat sich jetzt aber wieder gelegt, wir haben jetzt wieder so einen normalen Status, also praktisch, wir haben jetzt so... Also wir sind ja schon bekannt unter den Jugendlichen, aber damals war das so, dass uns jeder angequatscht hat auf der Straße und immer du hast zu uns gesagt hat. Und wenn ich aber ganz ehrlich bin, unsere Ambitionen Richtung Amerika sind gerade ein bisschen, wir reißen uns jetzt gerade nicht so rum, da gerade erfolgreich zu sein, weil wir da so ein bisschen zwiespältig sind.
C'est vrai qu'aux États-Unis, ça va toujours très vite. On peut être connu très rapidement et on peut retomber aussi vite. Et c'est vrai qu'on a eu cette chance à l'époque avec cette vidéo et la chanson Du hast, où on a dû bien tomber, on a bien ressenti peut-être un truc. Et du coup, on était vraiment complètement dans le coup. On était très connu à tel point que les gens venaient vers nous dans la rue, nous abordaient en disant Du hast. Et maintenant, ça va un tout petit peu mieux. On est toujours connu, notamment chez les jeunes, mais c'est revenu dans des proportions plus normales. Et c'est vrai qu'en ce qui concerne nos propres ambitions pour les États-Unis en ce moment, c'est que c'est un peu ambivalent. Donc on n'y va pas non plus très souvent en ce moment. Il n'y a pas énormément de concerts. Hein.
Peut-être m'accuser de casser de nouveau la magie de Rammstein, mais je m'en sors comment vous jouez, vous répétez en fait. Vous avez chaque répétition un nouveau local de répétition parce que vous brûlez tout à chaque fois, ou comment ça se passe?
Also wir suchen uns schon für jedes neue Album neue Örtlichkeiten und das ist immer außerhalb auch von Deutschland, um Inspiration zu bekommen und um weit weg von alltäglichen Sorgen wie Zahnarzt und Steuerberater zu sein. Bei diesem Album hatten wir noch, wie gesagt, von dem Reise-Reise-Album 7, 8 Lieder, waren schon fertig. Wir brauchten praktisch nur noch 4 neue Lieder zu machen, dann war das Album komplett.
Es ist C'est vrai qu'à chaque fois, on essaie effectivement de changer des locaux, tout simplement pour trouver une nouvelle inspiration. On essaie aussi de s'éloigner un tout petit peu de notre environnement habituel, de partir carrément de l'Allemagne, justement pour ne pas avoir en même temps des soucis de dentiste ou d'inspecteur d'impôts à gérer. Mais c'est vrai que cette fois-ci, c'était un peu particulier aussi dans la mesure où 7 à 8 chansons étaient déjà prêtes et il ne nous manquait plus que 4 nouvelles.
Je veux savoir pourquoi la symbolique du bateau, Rosenroth, on a un gros bateau, ce sera sûrement la pochette, on est ici sur un bateau, c'est un grand concept ou bien ça s'est fait comme ça au dernier moment?
Ich mache jetzt mal wieder ein bisschen Entzauberung. Das Cover war schon fertig und wir wollten so wenig wie möglich Stress haben und uns wieder ein neues Cover ausdenken und haben dann gesagt, ach, nehmen wir doch den Eisbrecher, wunderbar, und damit... Und damit es einen Sinn hat, dann nennen wir den einfach die Rosenroth. Und also es steckt wie so oft kein Konzept dahinter.
Je vais à nouveau démystifier un tout petit peu. Il faut savoir que le cover était déjà prêt et on s'était dit qu'on pouvait très bien rester là-dessus, comme ça on allait avoir moins de stress. Et donc on a repris l'image de ce brise-glace. Pour plus de cohérence, on l'a appelé Die Rosenroth. Donc c'est vrai que comme souvent, il n'y a pas de stratégie derrière tout ça.
Est-ce qu'ils pensent que les journalistes fantasment trop sur leur groupe?
Glaubst du, dass die Journalisten viel zu viel Überlegungen anstellen, zu fantasievoll an die Sache rangehen, was eure Gruppe anbelangt?
Nein, Journalisten sind immer so und die kriegen ja auch viel Geld dafür, dass sie genauso sind. Ich hätte hier nicht herkommen müssen.
Non, les journalistes sont effectivement comme ça, tous les journalistes, et ils gagnent beaucoup d'argent pour justement être comme ça, pour poser ce genre de questions.
Personnellement, je trouve que je n'en gagne pas assez.
Ok.
S'il en a trop.
Je sais pas. C'est une bonne idée.
Je pense que c'est une bonne idée.
Non, déjà, des paroles, c'est déjà merveilleux.
Bands sitzen immer da und wollen eigentlich Musik machen. Sie wollen jetzt keine großen Pamphlete verlesen und auch den Journalisten eigentlich gar nichts sagen. Jetzt, damit die Leute aber erfahren, dass ein neues Album rausgekommen ist, müssen wir notgedrungen Interviews geben für Journalisten. Journalisten, ein Interview ist praktisch die Möglichkeit, der Welt zu zeigen, wir haben ein neues Album und so ist das. Hätte es eine andere Möglichkeit gegeben, hätten wir die auf jeden Fall genutzt, aber so ist es nun mal. Wir können es nicht gut artikulieren und haben eigentlich auch nicht viel zu sagen. Deswegen machen wir ja Musik. Und darüber kommunizieren wir mit den Menschen. Aber eben, wie gesagt, um das publik zu machen, müssen wir uns der Journalisten bedienen. Wir geben uns Mühe, so gut wir können, aber schön ist es für uns nicht.
En fait, les groupes, ce qu'elles préfèrent, c'est vraiment faire de la musique, chanter les chansons, etc. Les journalistes sont là pour interviewer les groupes parce qu'il y a une actualité, il y a un concert, un album qui sort et il faut que les fans, il faut que le public soit au courant. Et c'est pour ça qu'on se plie à cet exercice. Si, pour nous, il n'y a pas d'autre façon de le faire. S'il y en avait une autre, je pense qu'on l'aurait utilisé. A priori, nous, on n'a pas beaucoup de choses à dire et on n'aime pas non plus trop parler, c'est pour ça qu'on le fait à travers la musique. Mais on est obligé de travailler ensemble avec les journalistes, on est obligé de s'en servir en quelque sorte pour arriver à ce résultat. Et on essaye de le faire aussi bien que l'on peut, mais ça ne nous amuse pas forcément.
Nous non plus.
Über Musik zu reden ist wie über Architektur zu tanzen.
Peut-être encore une remarque. Parler de musique, c'est comme si vous dansiez sur l'architecture.
Bon.
Ça va pas.
Mais souvent, quand un musicien parle à un journaliste, c'est pas pour le journaliste, c'est parce qu'il parle à ses fans surtout.
Mais c'est clair.
Hallo, hier ist Paul von Rammstein. Ich spiele die Gitarre links und sage Hallo zu Couleur 3.
Une question aussi peut-être par rapport au club. Est-ce qu'ils ont envie de retourner quand même dans des clubs? Est-ce qu'ils jouent encore dans des clubs Rammstein où ça sera de plus en plus gros, de plus en plus grand tout le temps?
Wir sind schon ab und zu mal in kleinen Clubs. Weil wir auch noch neue Märkte erschließen. Zum Beispiel, wenn wir in Japan spielen oder weiß ich wo. Und B, ist es ab und zu auch mal ganz angenehm, nicht immer diesen riesen Hallen zu spielen, wo man manchmal auch überfordert ist. Aber über die nächsten Konzerte habe ich jetzt noch keine richtigen Daten, weil wir jetzt erstmal ein bisschen Pause machen und dann ums nächste Album uns kümmern.
Non, c'est sûr que de temps en temps on joue effectivement encore dans des petits clubs, notamment quand il s'agit de partir sur un nouveau marché, comme par exemple au Japon. Et c'est vrai que ça peut être très agréable aussi parce qu'on n'a pas envie d'être que dans des immenses salles où on peut se sentir un peu surmené aussi par moment. Mais c'est vrai que pour l'instant, je n'ai pas énormément d'informations sur les concerts ou des soirées dans des clubs à venir, sachant que là, on va déjà faire une petite pause et qu'ensuite, on va préparer l'album suivant.
La dernière question, c'est par rapport à Rammstein et l'humour de Rammstein. Est-ce que tous les fans de Rammstein ont forcément compris que le groupe avait beaucoup d'humour?
Oh, da bin ich mir sicher, dass es nicht alle verstanden haben.
Mais je suis sûr que tout le monde n'a pas compris.
Pourquoi?
Weil unser Humor nicht so leicht zu sehen ist auf den ersten Blick. Auf den ersten Blick wirken wir auf keinen Fall lustig. Erst wenn man sich ein bisschen mit uns beschäftigt, merkt man, dass wir hier und da auch bekloppt sind und sein wollen.
Parce que notre humour ne transparaît pas forcément toujours très très clairement. Quand on nous voit comme ça les premières fois, on se rend pas forcément compte qu'on peut être assez marrant, assez rigolo. C'est uniquement après coup qu'on voit qu'on a peut-être un petit gras.